Nous allons prendre le temps de lire ce passage une fois de plus. C'est la dernière fois qu'on va le faire comme ça. Mais nous reprenons la lecture avant d'étudier la nouvelle partie aujourd'hui. Lorsque Jésus, verset 1, sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre !» Il regarde le temple à Jérusalem. « Quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous quand cela ?» c'est-à-dire la destruction du temple, « quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Je vous ai dit, et je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, dans la version de Matthieu, il ajoute ce détail, que les disciples posent en fait une question à trois parties. Quand est-ce que le temple va être détruit? Quand sera la fin du monde est avenue? Parce que les Juifs croyaient que le temple de Jérusalem allait subsister pendant toute l'histoire humaine. Et pour eux, l'annonce de la destruction du temple signifiait en même temps la fin du monde. Je vous rappelle donc que maintenant, Jésus va dissocier les deux événements, destruction du temple en 70 de notre ère, l'année 70, par les armées romaines, et fin du monde beaucoup plus tard. Ok? Je vous rappelle que dans toute la partie, jusqu'à ce que je vous avertisse, je vais vous avertir, mais tout ce qu'il va dire avant cet avertissement concerne non pas la fin du monde, mais la destruction de Jérusalem en 70. Donc, lisons. Verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, c'est moi. » Et ils séduiront beaucoup de gens, donc dans les 40 ans, entre ce moment et la destruction du temple. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin de Jérusalem. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, parce qu'il parle aux Juifs, et il parle du premier siècle. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, ce qui s'est passé au premier siècle. Et je vous rappelle, il utilise le terme oikoumene, pour qui, toutes les nations, qui signifie pour les gens de l'époque l'Empire romain, la terre habitée, civilisée, l'Empire romain. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je crois que sauvé signifie ici sauvé de la détresse qui frappera Israël, mais les chrétiens vont s'en sortir, et ça c'est ce qui s'est passé littéralement. Ils sont sortis avant que la ville de Jérusalem soit rasée. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, et Luc interprète cette phrase dans sa version, il dit « Quand vous verrez les armées entourer Jérusalem », donc l'abomination de désolation, c'est les armées romaines qui entourent Jérusalem, « que le lecteur fasse attention alors que ceux qui sont en Judée » ça ne parle pas de nous parce qu'on n'est pas en Judée, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Jésus indique aux Juifs du premier, de cette génération-là comment échapper à l'armée romaine. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours, parce qu'il va falloir fuir la ville, et même en toute Judée, il va falloir aller dans les collines. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et qu'il n'y en aura jamais plus. Marquez bien cette phrase. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, et encore sauvé de la détresse dont il est question ici, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, le Christ ne va pas revenir dans cette génération. Une fois qu'il est ressuscité, mort, ressuscité, il ne va pas revenir. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou là, ne le croyez pas car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes, des prodiges pour égarer si possible les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Et vous avez bien vu comment tout cela s'est réalisé dans le premier siècle, dans ces 40 ans après la mort de Jésus. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, citation de Daniel 7, avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, des extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et ici aussi, il ne parle pas de la fin du monde. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche, de même vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pas proche pour le deuxième retour, mais proche pour le jugement de Jérusalem. Car partout dans l'Ancien Testament, quand Dieu juge un pays, il dit qu'il vient. L'Éternel vient à Babylone. L'Éternel vient à Égypte. D'accord? Donc c'est le langage typique d'un jugement. Chaque fois qu'il y a un jugement, on appelle ça le jour du Seigneur pour ce peuple. Et l'Éternel vient. Ok? En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et c'est la phrase importante qui nous indique que tout ce que je viens de lire doit se passer dans la génération de ceux qui sont vivants au moment où Jésus parle. Ok? Donc, on a rien au sujet de la fin du monde. Jésus dit tout cela en vérité, il jure. Je vous dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront un jour. Ça, c'est la fin du monde. Mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour, et littéralement de ce jour-là, c'est-à-dire le jour où le ciel et la terre passeront, maintenant il va parler de la fin du monde. Donc c'est le changement. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Ils vont savoir le moment de la venue de des armées romaines pour détruire Jérusalem, parce qu'ils verront les signes et ils vont pouvoir échapper. Mais pour ce qui est de la venue du Seigneur à la fin du monde, il n'y a pas de signes de Jésus qui permettent de savoir. Ok, je m'arrête là, la lecture, et nous allons essayer d'étudier surtout les versets 24 à 27 aujourd'hui. Maintenant, avant de commencer, il faut que je vous dise un mot au sujet des versets 19 et 20, et ensuite on va entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je relis les versets 19 et 20. « Car ce seront des jours de tribulation, tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et il n'y en aura jamais plus. » Est-ce que ça peut vraiment être une description de la destruction de Jérusalem? Ou bien est-ce que ça parle de la fin du monde. Selon ce que nous avons étudié, Jésus décrit la destruction, le jugement sur le peuple juif qui a rejeté le Fils de Dieu. Quand Dieu incarné est venu, il le rejette et le crucifie. Et le jugement sur ce peuple, cette génération-là est un jugement sans pareil. Parce que leur péché est sans pareil. Maintenant, je veux juste vous le prouver en vous décrivant un peu d'histoire. Vous savez que lorsque nous lisons Flavius Joseph, l'historien juif qui n'est pas chrétien, qui a vécu ces choses, donc il est capturé par l'armée romaine lorsqu'elle est venue en 70, il nous dit que 1 100 000 personnes furent tuées pendant ce massacre d'Israël, et surtout de Judée et de Jérusalem, par les armées romaines. Tacite, l'historien romain, qui vit à la même époque, son chiffre est un peu moins, il dit que c'était 600 000. Mais que cela ait été 600 000 ou 1 100 000, il y a des centaines et des centaines de millions, c'est un génocide incroyable qui se passe là. À peu près 100 000 furent emmenés captifs. Et il faut savoir que la population normale de Jérusalem était quoi à l'époque? À peu près 50 000. Mais quand les armées romaines viennent au début de l'année 70, c'est le moment de la Pâque. Et les gens sont venus de tout le pays, et même des autres pays, les Juifs ont dit diaspora. La ville, comme d'habitude, est artificiellement surpeuplée. Et maintenant les armées viennent, et pendant 5 mois, chers amis, la ville de Jérusalem est bloquée, et personne ne peut sortir. Imaginez une ville surpeuplée, pendant 5 mois. Tacite et Flavius Joseph nous dit que la situation est devenue tellement mauvaise. Les gens à l'intérieur des murailles de Jérusalem mouraient de famine, mouraient de faim. Les vieillards, les cadavres étaient entassés dans la ville. Et les gens ont commencé à s'aventurer la nuit, à sortir pour essayer de trouver quelque chose à manger. Et Flavius Joseph et Tacite nous disent que les Romains crucifiaient à peu près 500 personnes chaque soir. Tellement il y avait des Juifs crucifiés en dehors des murailles qu'il n'y avait plus assez de croix pour les pendre. Et souvent, sur une croix, il y avait plusieurs personnes crucifiées et pendues. Flavius Joseph dit ceci au sujet de une fois que les armées, après 5 mois, pénètrent dans les murs de Jérusalem et rasent la ville, il dit ceci. Il dit que la ville était, je cite, « si bien rasée par la sape que les voyageurs, en arrivant là, pouvaient douter que ce lieu eût jamais été habité. Telle fut la fin de Jérusalem, cité illustre, célèbre parmi tous les hommes, victime de la folie des factieux. » Quelqu'un m'a demandé, est-ce que le mur de lamentation à Jérusalem fait partie du temple originel? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ça a été érigé beaucoup loin dans l'histoire. Mais je veux vous citer une citation de plus de Flavius Joseph, si vous me permettez, et puis j'arrête ce point. D'accord? Écoutez bien et pensez au verset 19 et 20 de Jésus qui dit que c'est la plus grande tribulation qu'un peuple ait jamais vécu. Maintenant, je lis Flavius Joseph, qui n'est pas chrétien. Il dit ceci. « Je vais donc dire sans embâge ce que j'en pense brièvement. Jamais aucune autre ville n'a-t-elle souffert de telles misères. Les calamités que les Juifs ont vécues étaient les plus grandes toutes, non pas seulement de celles de notre époque, mais dans un sens de tout dont on n'a jamais entendu parler, que ce soit dans le cadre des guerres entre villes ou guerres entre nations. Il me semble que tous les malheurs de tous les hommes depuis le commencement du monde, si on les compare à ces malheurs des Juifs, ne sont pas leurs égales. » C'est comme s'il citait Jésus, n'est-ce pas? Il dit exactement ce que Jésus a dit, cet historien juif. Bien, nous allons commencer notre examen de cette partie la plus difficile du passage, à croire qu'il ne s'agit pas de la fin du monde, mais de la destruction de Jérusalem. Verset 24. « Mais dans ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, on dirait la fin du monde, n'est-ce pas, sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce que ces événements cosmiques et catastrophiques décrits ici, quand est-ce que ces choses se passent, selon le passage? Parce que le passage nous dit quand cela se passe. Vous avez remarqué? Il dit « dans ces jours après cette tribulation ». D'accord? Dans les mêmes jours que je viens de décrire, tremblement de terre, les nations contre les nations, tout ce qui va, et aboutissant à la destruction. Vous voyez? Donc, il s'agit de quelque chose qui se passe dans ces jours-là. Ok? Donc, vous voyez bien que Jésus situe cet obscurcissement du soleil, etc., à l'époque de la génération de gens qui l'écoutaient pendant qu'il parlait. Deuxième question. Alors, quels événements catastrophiques sont décrits par ces paroles de Jésus? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Est-ce qu'il veut que vous le preniez littéralement, que, par exemple, le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus sa clarté et des étoiles tombent du ciel? Si une étoile tombe du ciel, où tombe-t-elle? Elle ne peut que tomber que dans le ciel, n'est-ce pas? Nous voyons qu'il y a un langage, vous savez qu'une étoile est des centaines de fois plus grande que la Terre, donc une étoile ne peut pas tomber sur la Terre. Ok? Vous comprenez bien. D'accord. Pour bien comprendre les propos de Jésus, nous devons les écouter de la même manière que les gens qui étaient là et qui étaient très familiers avec les prophéties de l'Ancien Testament, car Jésus est en train de citer des passages de l'Ancien Testament. Vous voyez que les paroles sont en italique probablement dans votre Bible. C'est des citations de l'Ancien Testament. Alors, nous allons prendre un moment pour réfléchir ensemble. Est-ce que vous avez lu le livre de Genèse? Pouvez-vous me dire le rêve que Joseph a eu quand il était jeune qui a fâché toute la famille? Ses 11 frères, son papa et sa maman étaient fâchés quand Joseph a eu ce rêve. Oui, voilà. Donc, il a dit qu'il a eu un rêve que le soleil, la lune et 11 étoiles sont venues se prosterner devant lui. Pourquoi le soleil, qui est le soleil?
Le papa.
C'est Jacob, c'est le papa. Qui est la lune? C'est la maman. Et les 11 étoiles? Ah, vous savez bien comprendre le langage imagé, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on utilise des corps cosmiques, des astres, pour parler des gens? Parce que toutes ces personnes sont des chefs. Jacob est le chef de tout Israël et tout le peuple de Dieu qui va suivre. C'est lui qui est la tête. C'est le soleil. N'est-ce pas? Les 11 étoiles sont les 11 frères qui vont être les chefs des 11 tribus d'Israël, 12e avec Joseph. Ok? Donc souvent dans la Bible, étoile, soleil, ça signifie des personnes en position d'autorité. Ok, bien. Je voudrais aussi vous poser une autre question. Qu'est-ce qui est sûr le drapeau des États-Unis. Ok, il y a 50 étoiles pour 50 États. Si vous regardez les drapeaux de tous les pays du monde, ce que j'ai fait hier soir sur Internet, vous trouvez que, on dirait presque la moitié en soit un soleil, comme le Japon, soleil rouge, n'est-ce pas? Le pays du soleil levant, on appelle le Japon, n'est-ce pas? Ou des étoiles. Beaucoup de pays ont des étoiles, ou la lune. Et ces étoiles sont toujours pour l'homme dans l'histoire une image, un symbole d'un empire, un état. Ok? Et quand une étoile tombe, c'est soit un chef, un empereur ou un empire qui tombe. Ok, nous allons lire dans Ézéchiel 32. Et si vous ne voulez pas tourner, ce n'est pas grave, je vous lirai. Je vais vous lire juste deux passages. Le premier dans Ézéchiel chapitre 32. Et nous allons essayer de devenir juifs dans notre tête parce que nous sommes très loin de la manière de penser d'un juif. Nous poussons des choses incroyablement dans la Bible parce que nous n'écoutons pas comme un juif aurait écouté. Ok? Ézéchiel chapitre 32 et les versets 7 à 8. Et donc je vous avertis que c'est une prophétie qui concerne la chute de Babylone, la chute d'Égypte quand Babylone vient l'attaquer. Ça s'est passé au début du 6e siècle avant notre ère. Ok, donc vous voyez ça dans le contexte. Si vous voulez lire tout le passage, vous verrez qu'il explique cela. Mais il dit au verset 7, « Quand tu éteindras, je voilerai les cieux, j'obscurcirai leurs étoiles, je voilerai le soleil d'une nuée, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les foyers de lumière des cieux, et je répandrai les ténèbres sur tout ton pays, oracle de l'Éternel. » Et si vous avez envie de revenir en arrière au verset 2, vous voyez qu'il s'agit « Entonne une complainte sur le Pharaon, roi d'Égypte. » D'accord? Donc c'est l'annonce d'un jugement contre le Pharaon et le pays d'Égypte. Et quand on parle d'un soleil qui s'obscurcit, c'est l'Empire égyptien. D'accord? Nous allons lire un deuxième passage qui est encore plus important pour nous parce que c'est celui qui est probablement, qui inspire Jésus le plus, le langage de Jésus est plus pris de ce passage. Il prend des bouts de phrases de plusieurs prophéties, mais surtout de celle-ci en Ésaïe et chapitre 13. Chapitre 13. Je lis d'abord le verset 1, je vais lire plusieurs versets et vous allez voir. Menace sur Babylone, donc maintenant ça va être un jugement sur Babylone qui se passe quand l'Empire Médo-Perse vient et qui attaque et bat l'Empire Babylonien. Menace sur Babylone dont Isaïe, fils d'Amoz, eut la vision. Sur une montagne nus, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, agitez la main et qu'ils franchissent les portes. Bon, je vais sortir un peu pour arriver à la partie qui nous concerne. Verset 6, lamentez-vous car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme le ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et le corps manque à tout homme. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme qui accouche. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel qui arrive. Pas la fin du monde, mais le jour de l'Éternel pour le jugement de Babylone. Jour cruel, jour de courroux, d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation, qui en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa lumière. Je punirai le monde pour sa méchanceté et les méchants pour leur faute. Je ferai cesser l'orgueil des présomptueux, ainsi de suite. Alors, il parle du monde parce que l'empire babylonien est immense. On peut parler du monde. Mais verset 17, regardez bien, parce que je veux que vous voyez que c'est localisé ce jugement. Regardez bien le verset 17. « Me voici, j'excite contre eux les Mèdes qui ne pensent pas à l'argent et à qui l'or ne plaît pas. » Verset 19, « Et Babylone, l'ornement des royaumes sera comme Sodome et Gomorre que Dieu bouleversa. » Ok? Donc, il décrit comme une scène cosmique, le soleil s'obscurcit, mais ce soleil, c'est Babylone, c'est sa puissance et son autorité, et Dieu change l'ordre politique du monde. Et c'est comme cela que les prophéties de l'Ancien Testament parlent. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi parler de la chute d'un empire en utilisant l'obscurcissement du soleil, des étoiles. Simplement parce que les retombées de la chute d'un empire comme Babylone ou d'Israël comme le peuple de Dieu, quand Dieu change cela, c'est un changement catastrophique, c'est un changement dans l'ordre même du monde entier, un changement que c'est comme si le soleil s'obscurcit, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour donner une image vivante de la grandeur, de l'immensité, de l'implication de ce changement. D'accord? Bien. Donc, nous voyons que dans notre passage en Marc 13, que Jésus dit que ça se passe dans ces jours, et en fait, Jésus parle de la destruction du temple de Jérusalem, quand il dit que le soleil va s'obscurcir, ainsi de suite, et que le Fils de l'homme vient sur les nuées. Il n'est pas en train de parler de la fin du monde, il est en train de parler d'un changement tellement immense, parce que Israël ne sera plus le peuple de Dieu. Le Dieu vivant, dans sa relation avec le monde entier, va changer de siège. Le siège de la relation de Dieu avec les hommes va changer. Ce ne sera plus le temple qui sera pas là, ce ne sera plus Israël, mais ce sera la personne de Jésus-Christ qui sera le centre. Et le peuple de Dieu va devenir international. N'est-ce pas? C'est un changement, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est le plus grand point tournant de l'histoire. Et c'est pour ça que Jésus doit dire... Le soleil va s'obscurcir et ainsi de suite. Maintenant, nous voulons comprendre ce verset 26 où Jésus cite Daniel. « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. » Comme vous avez vu dans le livre de Daniel, il voit un fils d'homme qui vient sur les nuées, mais qui vient vers l'ancien des jours. Il ne vient pas du ciel vers la terre, mais le passage que Jésus cite, c'est le seul passage dans l'Ancien Testament, dans la Bible, qui parle de fils de l'homme qui vient sur les nuées, le seul. Et Jésus le cite. Mais dans ce seul passage, ce seul incident, le fils de l'homme vient dans son règne. Parce que vous avez compris que dans ce procès céleste en Daniel 7, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Fils de l'homme reçoit la domination, le règne et l'honneur, et à partir de ce moment, il matérialise son règne sur le monde entier. D'accord? Ok? Donc c'est un changement de l'ordre, changement de pouvoir. C'est exactement une sorte de langage. Où on parle du soleil, de la lune et des étoiles, n'est-ce pas? Donc, Rappelez-vous que dans Daniel 7, ce n'est pas une chose qui se passe sur la terre. Cette venue du Fils de l'homme, ce n'est pas un événement terrestre, mais céleste. Mais avec des retombées pour le monde entier. D'accord? C'est un procès légal. Les livres sont ouverts, n'est-ce pas? Et Dieu, le Père, donne la domination officiellement à Jésus-Christ. Mais vous pouvez dire que quand même Jésus a dit, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées. Je pense, et je vais vous montrer quelques preuves, je pense que Jésus parle de la manière prophétique de l'Ancien Testament et c'est une façon imagée de dire que vous allez voir par des signes palpables ici-bas que le Fils de l'homme est venu dans son règne là-haut. C'est ça qu'il veut. Vous allez voir le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance. C'est-à-dire, je vous informe que Daniel 7 va se réaliser et vous allez vous rendre compte. OK? OK, première preuve. Si vous voulez, vous pouvez regarder Matthieu 16, 28 avec moi. Un passage extrêmement important. Ces deux passages que je vais vous montrer maintenant, c'est critique, absolument critique pour comprendre la manière dont Jésus parle. C'est Jésus qui parle et il dit dans ce verset, « en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » D'accord? Le Fils de l'homme venir dans son règne. Maintenant, beaucoup de chrétiens évangéliques diraient, Jésus parle de sa venue. Jésus ne parle pas de sa venue. Il parle de sa venue dans son règne, c'est-à-dire le moment où il reçoit le règne. Il parle de Daniel 7. Il parle de quelque chose qui se passe dans le premier siècle. OK? Venir dans son règne. Quand François Hollande est venu dans son office présidentiel, il n'est pas venu, ça ne veut pas dire qu'il soit venu à Aix ou ailleurs, ça veut dire qu'il a pris le pouvoir. Et Jésus dit, quelques-uns de vous ne mourront pas avant de voir vu, et je souligne ce mot, vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mais ils n'auront pas vu le Fils de l'homme. Ils auront vu la prise du pouvoir du Fils de l'homme. Et je vais vous montrer comment tout à l'heure. OK, Matthieu 26. Versets 63 et 64. Et je soutiens que si vous ne comprenez pas ces versets de cette manière, on a des grands problèmes de contradiction pour comprendre ces passages. Donc, 26, 63 à 64. Jésus, c'est la nuit avant sa crucifixion. Jésus est maintenant en procès. Il est devant le souverain sacrificateur. Il est questionné. Et la Bible nous dit ceci. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Jésus est en train de dire à ses responsables juifs, « Vous allez voir désormais. » Et la phrase en grec ne veut pas dire « un jour ». La phrase en grec, si vous comparez chaque fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, ça veut dire « vous verrez à partir de maintenant ». Vous verrez désormais. Par exemple, si j'ai un enfant qui grandit, il a été dans la chaise haute à la table pour manger jusqu'ici, et un jour j'apporte une chaise et je lui dis, désormais, tu vas t'asseoir sur une chaise de grand. Qu'est-ce que le mot désormais signifie? Ça veut dire à partir de maintenant. Ok? C'est la phrase que Jésus dit. Il dit à ses souverains sacrificateurs, désormais, à partir de maintenant, parce qu'il va être crucifié, ressuscité et aller auprès du Père pour recevoir le règne. À partir de maintenant, vous allez voir le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, non pas littéralement, mais ils vont le voir dans les événements comme le jugement de Jérusalem. Ils vont voir que le Christ est Seigneur. Ok? Et vous le verrez venir sur les nuées du ciel. Ça, c'est simplement Daniel 7. Venir dans son règne. Venir dans sa prise de... Vous allez voir. Vous ne croyez pas que je sois Seigneur? Vous allez voir à partir de ce soir. Et des quelques jours à venir. Ok. Une troisième preuve, et j'arrive vers la fin de mon message, d'accord? Mais j'ai quelques preuves à vous dire et je n'ai pas bouclé. Ça va devenir beaucoup plus confirmé. Juste un détail. Dans le reste de notre passage, il y a cette parabole du figuier et quand le figuier à ses feuilles, vous savez que c'est prêt à cueillir les fruits, n'est-ce pas? Et il dit, ainsi, vous aussi, vous allez savoir quand vous voyez tous ces signes, les guerres, etc., que le Fils de l'homme est proche. Mais Luc, c'est Marc et Matthieu qui disent que le Fils de l'homme est proche. Mais Luc, qui n'écrit pas aux Juifs, doit expliquer des phrases souvent, et lui, il ne dit pas... Il ne met pas dans la bouche de Jésus, le Fils de l'homme est proche. Il dit, vous saurez que vous voyez ces choses, que le royaume de Dieu est proche. Ok? Donc, la venue du Fils de l'homme égale la venue du royaume, la prise de pouvoir. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir forcément quelque chose physiquement. On est en train de parler de réalité céleste et spirituelle. Ok? Le Fils de l'homme est proche, ne veut pas dire la fin du monde où le Fils de l'homme va vraiment venir. Ça veut dire que sa prise de pouvoir, où le Christ va devenir vraiment Seigneur de tous les pays, est proche. Ok? Ok, maintenant. En d'autres termes, quand Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire, il est en train de dire que vous allez voir une évidence que je règne maintenant. Ça va? Ok, je veux vous le prouver. D'abord, je dois vous dire que en Matthieu, nous avons une traduction qui n'est pas toujours bonne parce que les traducteurs changent l'ordre des mots en grec, qui est parfois important, et ils disent. Alors, vous verrez, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors qu'en grec, l'ordre des mots, alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Ce n'est pas le ciel, le signe qui est dans le ciel, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. D'accord? Alors, vous verrez le signe que le Fils de l'homme est dans le ciel comme Seigneur. Et quel sera ce signe? C'est la destruction de Jérusalem, entre autres, que Jésus annonce. Ok. Maintenant, je voudrais vous donner une petite preuve que ce que je vous dis est vrai, c'est-à-dire, c'est par des choses qui se passent ici-bas dans le premier siècle qu'on constate que Daniel 7 s'est réalisé et que Jésus est Seigneur. Si vous voulez bien, on va terminer en regardant Acte 2. Acte 2, ce serait bien que vous ayez sous les yeux ce passage, parce que c'est très parallèle, et vous allez mieux voir ce que je veux vous enseigner là ce matin. C'est vraiment, excusez-moi, c'est de l'instruction. Il faut étudier la parole de Dieu, il faut sonder, il faut creuser pour comprendre bien. Maintenant, il s'agit du jour de la Pentecôte. Ok? Alors, on va resituer les choses. Pentecôte, c'est quand? Combien de temps après la mort de Jésus? 50 jours? 50 jours, ok. Donc, la chute de Jérusalem, c'est encore 40 ans plus tard. Ok? Mais déjà, Jésus est ressuscité et déjà, il a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Mais la matérialisation de cette prise de pouvoir va se faire progressivement. Parce qu'il va laisser le temps pour les Juifs de croire ou ne pas croire en lui avant de juger. Il ne va pas laisser tomber un jugement sur Jérusalem avant de leur donner le temps d'entendre qu'il est le ressuscité, croyez en lui. Donc il y a une prise de pouvoir qui est déjà là dès sa résurrection, mais qui on ne le voit pas qu'en étape. La première étape n'est pas la destruction de Jérusalem. La première chose qu'on voit sur terre qui dit aux gens, c'est Jésus qui est Seigneur et il a pris le pouvoir sur le monde entier. La première chose qui nous indique ça, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, les disciples de Jésus, seulement de Jésus, sont remplis de l'Esprit, parlent miraculeusement dans toutes les langues des gens présents et annoncent l'Évangile à ces gens. D'accord? Et à la fin de sa prédication, voilà ce que Pierre dit, c'est extrêmement important au verset 32 et suivant. Suivez la lecture. Il parle de la Pentecôte, de ce déversement de l'Esprit. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu « comme vous le voyez ». Ok? Vous allez voir que Jésus est Seigneur par quelque chose qui est visible. Comme vous voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, comme Jésus, hein? Preuve que Jésus est monté. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de ses ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. Ça veut dire quoi, que Dieu a fait Seigneur ce Jésus? Ça veut dire Daniel 7. Ça veut dire prise de pouvoir. Pierre dit, la Pentecôte vous prouve, par quelque chose que vous avez vu vous-même, que Daniel 7 s'est réalisé au ciel. Dieu a fait de Jésus le Seigneur de Daniel 7, comment vous le savez? Par la Pentecôte que vous avez vue et entendue. Ça va? Maintenant, une deuxième étape vient à la destruction de Jérusalem. On voit par un signe négatif maintenant que ceux qui refusent le Christ sont jugés. Ok? Et là aussi, on voit que le Christ règne sur les hommes et sur les nations. Et la dernière chose qui prouve que Jésus-Christ a pris le pouvoir de l'univers, nous le trouvons dans notre passage et dans le verset 27, si vous regardez. Et là, si je termine vraiment, le verset 27. « Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Le troisième signe qui m'assure que Jésus a pris le pouvoir, comme Daniel 7 le dit, c'est que l'Évangile est en train d'aller dans toutes les nations maintenant. Ça, c'est le grand changement. Ça ne pouvait pas arriver, sauf si Jésus prenait le pouvoir de l'univers. Il dit, allez annoncer l'Évangile à toutes les nations, car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. La mission internationale de l'Évangile dépend du fait que Jésus peut dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ok? Et le fait que l'Évangile aille dans toutes les nations est la preuve que Jésus a pris son pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il dit, il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents? Il est toujours dans le langage apocalyptique. Donc, il utilise les anges. Le mot ange signifie messager. La plupart du temps, c'est des êtres célestes. Parfois, c'est un homme qui est appelé par Angelos, un messager. Je crois qu'il est simplement en train de dire que Dieu envoie maintenant, Christ envoie sa puissance, même ses anges, dans les nations. Il délie les hommes du diable et il fraye le chemin et il envoie son évangile, tout simplement. Une façon de le dire. En tout cas, c'est sûr que les trois preuves que nous avons, qui sont visibles, que Jésus a pris le pouvoir, qu'il est venu sur les nuées vers le Père, pas vers le ciel, mais vers le Père, et qu'il est entré dans son règne, c'est la Pentecôte, c'est la destruction de Jérusalem, c'est la propagation de l'Évangile à toutes les nations. Et c'est exactement ce que Jésus a prédit. Voilà. Donc, nous avons non pas une description de la fin du monde, mais des changements cataclysmiques qui sont venus par la mort et la résurrection du Christ. Trois applications. Attention à la manière dont nous lisons nos Bibles. N'est-ce pas? Attention. Deuxièmement, Jésus règne. C'est incroyable. Sur toutes les nations. Même si vous voyez que ce monde est troublé, le Christ est en train de poursuivre son plan exactement comme il l'a prévu. C'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et troisièmement, ce n'est pas une petite chose, chers amis, de refuser Jésus-Christ. Vous voyez cette destruction sur Jérusalem? Vous avez chanté le psaume 2. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère. Et nous prions pour les Juifs aujourd'hui, cette génération, qu'ils puissent venir à Christ de plus en plus, n'est-ce pas? Et nous prions pour toutes les nations. Mais oh, quel horrible jugement pour l'homme arrogant qui ose refuser celui qui reçoit de l'ancien des jours la domination sur l'univers. Qu'il soit loué. Nous allons chanter le numéro 23 dans le carnet noir. Nous allons célébrer ceux qui ont